Bonjour à tous. Mardi 25, si je ne me trompe pas, oui, 25 septembre 2018. Bienvenue dans les voies de service sur Canal M. Je suis Louis de Bernis et j'ai en ma compagnie Jean-Charles Algan à mes côtés.
Bonjour.
Bonjour Jean-Charles, comment allez-vous ?
Très très bien, merci. Et vous-même ?
Très bien, avec une petite laine pour se réchauffer parce que
oui, ça y est.
Les températures ont désormais baissé, c'est officiel.
Nous sommes en automne.
Nous sommes en automne, mais installez-vous comme nous. Nous sommes bien au chaud dans le studio avec vous pour l'heure qui vient, avec tout plein de sujets. Et quels sont-ils dans cette première partie ?
Justement, on va parler d'escapades d'automne qu'on peut faire non loin dans la province. Et puis, on va parler de vin québécois aussi, mais on va parler aussi de l'Afrique qui est boudée, qui a été boudée par les touristes et qui reprend de la vigueur.
Du tourisme d'ici et d'ailleurs, alors, dans cette première partie, pour ma part, eh bien, l'automne ne manque pas d'insolites. On parlera par exemple d'un thé hallucinogène. Oui, c'est possible. Également, nous allons également en Afrique pour moi, du côté du Sahara, avec une idée de Monsieur Trump pour le Sahara, qui promet d'être étonnante. Et puis, dans cette première partie, nous aurons, je crois, aussi le temps de parler du musée dédié à Pablo Escobar, qui fait des vagues en Colombie. C'est dans quelques instants, dans les voies de service.
Six escapades d'automne dans la région d'Ottawa-Gatineau. Il y en a qui vont en rajouter une septième depuis quelques jours. L'automne dans la magnifique région d'Ottawa-Gatineau est un moment simplement magique. Les arbres aux mille couleurs et les édifices historiques des siècles passés offrent un festin pour les yeux. Un vent de fraîcheur souffle depuis le canal Rideau. Des odeurs de terre, de légumes bien mûrs et de bières locales parfument les marchés. En famille, en couple ou en solo, voici 6 activités à faire pour profiter des plus beaux jours de la saison dans la capitale canadienne, située à moins de 2 heures de Montréal. En premier, voir les couleurs au parc de la Gatineau. À seulement 15 minutes de la colline du Parlement, le parc de la Gatineau présente en automne un décor à couper le souffle pour faciliter les déplacements. Des navettes gratuites assurent le transport depuis le marché BY, je ne sais plus comment on le prononce, BY, à Ottawa et le camp Fortune à Gatineau tous les week-ends du 29 septembre au 21 octobre. On peut aussi se la couler douce au Nordic Spa Nature. Alors, il faut savoir qu'avec ses constructions en bois rond de style rustique et son emplacement pittoresque voisin du parc de la Gatineau, le Nordic Spa Nature s'élève dans une classe à part. C'est le plus grand spa extérieur en Amérique du Nord. On peut aussi s'envoler dans un avion des années 30 si vous n'avez pas froid aux yeux. Un pilote de l'entreprise Ottawa Biplane Adventure vous invite à grimper à bord d'un véritable avion biplan des années 30 et à prendre le ciel d'assaut. Deux passagers peuvent monter dans le cockpit ouvert pour vivre cette aventure comparable à une promenade en décapotable dans le ciel. Pour une telle expérience, le prix est étonnant. Un vol d'introduction ne coûte que 65$ par personne jusqu'au 15 novembre au Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada. On peut aussi avoir la frousse avec la marche hantée. Lauréate de 16 certificats d'excellence TripAdvisor consécutifs, la marche hantée vous invite à découvrir Ottawa d'un tout autre œil. À la lueur des lanternes, les guides racontent les meilleures histoires de fantômes de la ville ou de lieux historiques comme l'ancienne prison du comté de Carleton et le domaine Mackenzie King. Pendant le mois d'octobre, les comédiens proposent des circuits spéciaux pour célébrer l'Halloween, évidemment. On peut aussi faire la tournée des microbrasseries qui est partant pour une journée complète à déguster des bières de microbrasserie sans avoir à prendre le volant à bord d'un autobus, Blue Donkey. Et enfin, on peut capter des endroits surprenants en photo, à pied comme à vélo. La région d'Ottawa-Gatineau compte de nombreux emplacements où la vue mérite d'être immortalisée sur votre fil Instagram.
« Êtes-vous un consommateur de thé, Jean-Charles ?
Pas vraiment.
Non, plus café.
Plus café, bon, vous faites bien alors, parce que, écoutez, certains thés contiennent des substances étranges, il faut croire. Je vous emmène en Alberta, où trois personnes ont plaidé coupables après avoir été inculpées dans une affaire étrange d'enlèvement et de nudité qui pourrait avoir impliqué un thé hallucinogène.
Ah, ah.
Deux femmes et un homme, qui ne peuvent être identifiés en raison d'une ordonnance de non-publication, ont plaidé coupables au tribunal provincial à Leduc lundi, la semaine passée, pour séquestration. L'une des femmes, 36 ans, a également plaidé coupable de conduite dangereuse. Le prononcé de la peine doit avoir lieu le 20 décembre. Les événements en cause se sont produits le 6 novembre de l'année passée. Selon la Gendarmerie royale du Canada, trois membres d'une même famille ont été forcés de quitter leur maison, située au sud d'Edmonton, puis traînés dans une voiture où se trouvaient déjà plusieurs personnes nues. Les policiers ont été alertés après avoir reçu un appel concernant un accident entre une voiture et un camion près de Nisku. À l'intérieur du camion, ils ont trouvé les trois victimes, un homme, sa fille adulte et le bébé de celle-ci, qui avaient apparemment été secourus par le conducteur du camion. À l'intérieur de la voiture, il y avait cinq personnes, quatre d'entre elles étaient nues, dont deux mineurs, personne n'a été blessé. Les deux sœurs adolescentes n'ont pas été accusées. Leur père avait indiqué à la presse canadienne que les filles avaient pris ce jour-là leur petit déjeuner avec son ex-femme et un couple marié. Il a affirmé que le groupe aurait inconsciemment bu du thé hallucinogène qui avait été rapporté lors d'un récent voyage à l'étranger. Le père a dit que les filles ne se souvenaient pas de ce qui s'était passé, il a dit ne pas connaître le nom du thé. Quelle que soit la puissance de ce truc, il a sans doute causé un grand flou, a-t-il fait valoir. C'est une pensée effrayante d'imaginer « Oh, essayons ce thé que nous avons acheté », puis ils s'assoient tout en croyant qu'ils passeront juste une bonne matinée et ils se retrouvent dans cette situation. Les victimes ont aussi affirmé l'an dernier qu'elles connaissaient les accusés en tant que voisins et qu'ils étaient tous membres de la même église des Témoins de Jéhovah. Elles ont déclaré que l'une des femmes soupçonnées s'était présentée à leur porte d'entrée vêtue et agissant de manière agitée, avec elle se trouvaient quatre personnes nues. Les membres de la famille ont dit qu'ils avaient été forcés de quitter la maison et d'entrer dans une BMW. L'homme aurait été mis dans le coffre et sa fille et son bébé dans la voiture avec les autres. À un certain moment, alors que la voiture se déplaçait, l'homme aurait réussi à sortir du coffre. Et alors que la voiture ralentissait, la femme et son bébé auraient réussi à s'enfuir. Les trois victimes ont ensuite été embarquées par un homme dans son camion. Mais le camion aurait alors été heurté par la voiture. Ça fait décidément beaucoup, beaucoup de péripéties dans le même article et dans le même événement. Mais il se passe des choses étranges en Alberta en ce moment.
Effectivement.
Méfiez-vous du thé.
Et je vois aussi charme que de laisser croire à notre amour.
Alain Chamfort nous chantait l'oiseau de nuit.
Boudé, l'Afrique cherche à séduire les touristes, de Gregory Walton de l'agence France-Presse Le Cap. L'Afrique séduit seulement 5% des touristes du monde entier malgré les pyramides, les chutes Victoria, les safaris ou ses plages désertes. Pour utiliser au mieux son potentiel, elle doit miser sur l'écotourisme et se stabiliser politiquement, estiment les experts. Les pays qui ont réussi dans le tourisme sont ceux qui ont fait ces choix, explique la directrice générale de l'Association du tourisme en Afrique, ATA, Naledi Kabo, lors d'une conférence de secteur organisée par Airbnb la semaine dernière au Cap. Elle en veut pour preuve les exemples de la Tanzanie et du Rwanda, très attrayants, pour certains voyageurs. Le nombre de touristes en Tanzanie qui proposent des safaris respectueux de l'environnement et des lodges neutres en émissions de carbone a plus que doublé depuis 2006 à plus d'un million. Le secteur contribue à hauteur de 14% au produit intérieur brut de ce pays d'Afrique de l'Est, selon l'agence gouvernementale de promotion de l'investissement Tanzania Invest. Pour Naledi Kabo, l'Afrique du Sud a aussi réussi à s'imposer comme une destination incontournable en diversifiant ses produits au-delà des safaris. Elle a enregistré une forte augmentation des visites centrées sur le mode de vie des habitants, avec des voyageurs curieux de découvrir des townships et des communautés rurales désavantagées, en plus de faire un safari et de déguster des bons vins dans les vignobles du Cap. Abigail Mbalo a fondé le concept Forum Ekazi, où les voyageurs découvrent nourriture et mode de vie des communautés noires en Afrique du Sud. Nous avons tablé sur le développement du tourisme dans les régions rurales et les townships. Cette niche n'a pas été exploitée, explique-t-elle. Aujourd'hui, le tourisme en Afrique du Sud emploie plus de 700 000 personnes, dont nombre de Noirs, un vrai succès dans un pays où le taux de chômage avoisine les 28%. De nombreuses destinations africaines misent sur des voyageurs à devise forte, mais le Kenya a décidé de promouvoir le tourisme intérieur après avoir été boudé il y a quelques années par les étrangers pour cause de violences post-électorales et d'attentats. Nous avons réussi à développer le marché local qui représente 21% des occupations d'Airbnb, s'est félicité le ministre kenyan du tourisme Najib Balala à la conférence. Le tourisme, deuxième ressource du Kenya, a généré 1,2 milliard de dollars de revenus en 2017. Comme au Kenya, l'instabilité politique handicape nombre de pays africains au fort potentiel touristique. Sur la carte, la République démocratique du Congo, la RDC, avec ses gorilles, ses volcans et ses parcs nationaux, pourrait être un paradis pour touristes si elle n'était ravagée par les violences, note l'auteur Anita Mendirata, spécialisé dans le tourisme. En mai, deux Britanniques ont été enlevés dans le parc des Virunga avant d'être libérés quelques jours plus tard. Après des années de vaches maigres, le Zimbabwe, qui propose de somptueux safaris et abrite les impressionnantes chutes Victoria, a enregistré une forte affluence après la démission fin 2017 de Robert Mugabe, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis des décennies. Le nombre de touristes étrangers a augmenté, mais le pays est encore loin d'atteindre sa pleine capacité. L'insécurité est parfois une menace réelle, mais parfois il s'agit aussi d'un problème de perception, estime Naledi Kabo. Il revient au gouvernement africain et aux responsables du tourisme d'être plus proactifs et de changer la perception de leur pays à l'étranger, ajoute-t-elle. Le Rwanda fait figure d'exemple en la matière. Le pays ravagé par un génocide en 1994 est désormais une destination prisée, notamment pour ses gorilles. Le tourisme est notre principale source de devises étrangères, ce qui est incroyable pour un pays comme le Rwanda, estime Rosette Rukamba, à la tête de Rwanda Tourisme de 2003 à 2010.
Et puisque vous nous emmenez en Afrique, bonne idée, restons-y avec mon article. Et fut un temps, il y a quelques semaines, allez, quelques mois, mes chroniques chaque semaine étaient animées par Monsieur Trump, tant il fournissait de l'information à la catégorie insolite de la presse. Je me suis un peu calmé ensuite en me disant que peut-être vous en auriez marre de l'autre côté de la radio d'entendre parler de Monsieur Trump toutes les semaines. Mais il faut avouer qu'il n'a pas son pareil pour nous sortir des choses, des idées assez incroyables ici et là. Et celle-ci concerne eh bien, l'Afrique et le Sahara. Le président américain Donald Trump a récemment suggéré de construire un mur le long du Sahara pour freiner les migrations. Au ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell, a rapporté ce dernier selon une vidéo diffusée par les médias espagnols. Fermer les ports n'est pas une solution, et construire un mur le long du Sahara, comme le suggérait récemment le président Trump, n'est pas non plus une solution, a déclaré Josep Borrell lors d'un déjeuner public organisé mardi la semaine passée à Madrid. L'ancien président du Parlement européen a poursuivi en assurant que le président américain lui avait lancé « Faites donc un mur le long du Sahara ». Mais savez-vous à quel point le Sahara est grand, a ajouté le ministre espagnol en forme de réponse à M. Trump, sans préciser à quel moment ni dans quel cadre le président américain avait lancé cette phrase. Occupant presque tout le nord de l'Afrique, cet immense désert mesure environ 4800 km d'est en ouest. Ceci dit, le mur que Donald Trump veut construire à la frontière mexicaine pour empêcher l'entrée des clandestins aux États-Unis, mesurerait lui tout de même 3200 km et coûterait quelques 20 milliards de dollars américains selon certaines estimations. Ces déclarations de M. Borrell interviennent alors que les dirigeants de l'Union européenne sont réunis à Salzbourg pour un sommet notamment consacré à la question migratoire et à quelques jours d'un voyage aux États-Unis du nouveau président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui sera reçu lundi à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. L'Espagne est actuellement la première porte d'entrée pour l'immigration clandestine en Europe, selon l'OIM, avec plus de 38 000 arrivées par terre et par mer depuis le début de l'année. Elle dispose sur le continent africain de deux impressionnantes clôtures hautes de 6 mètres barrant l'accès à ces micro-territoires de Ceuta et Melilla, enclavés dans le nord du Maroc, mais qui ne dissuade pas les migrants d'essayer de les franchir. Alors, Monsieur Trump, à quoi bon en construire un le long du Sahara ?
Je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sang là.
Clara Luciani, La Grenade.
C'est normal, c'est une Corse.
Forcément.
Eh bien, je vais vous parler de vin québécois maintenant, en épicerie. Savez-vous que l'Australie met la loi à l'épreuve ? Un texte de Julien Arsenault. La conformité de la loi permettant aux vins québécois d'être vendus directement dans les supermarchés sera vraisemblablement mise à l'épreuve auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en vertu d'une plainte déposée par l'Australie contre le Canada dans laquelle le Québec est cité. Dans une requête passée inaperçue le mois dernier, le pays d'Océanie a demandé à l'organisation internationale établie à Genève de mettre sur pied un groupe spécial afin de se pencher notamment sur les mesures entourant la distribution, les licences et les politiques d'accès au marché canadien du vin. En plus du Québec, la Colombie-Britannique, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse sont mises en cause dans le document de 5 pages. Il apparaît que diverses mesures en matière de distribution, de licences et de vente, comme des majorations des prix des produits, des politiques relatives à l'accès au marché et à l'inscription au catalogue, ainsi que des droits et taxes sur le vin appliqués au niveau fédéral et provincial, établissait une discrimination directement ou indirectement à l'encontre du vin importé, peut-on lire. Des consultations ont eu lieu entre les deux pays plus tôt cette année, mais cela n'a pu dénouer l'impasse, ce qui a incité l'Australie à demander officiellement la composition d'un groupe spécial. Lundi après-midi, Québec et Ottawa n'avaient pas répondu aux questions envoyées par la presse canadienne. Cette plainte survient près de 2 ans après que l'Australie eut demandé au Canada d'abaisser certaines barrières commerciales entourant la vente du vin, un traitement dont avait bénéficié l'Union européenne. Dans sa liste de critiques, l'Australie évoque entre autres la loi 88 permettant aux vins québécois de se retrouver dans les quelques 8000 supermarchés de la province sans transiter par la Société des alcools du Québec, la SAQ. Les vins importés ne bénéficient pas de ce même accès et doivent passer par le système de distribution de la SAQ, système dans lequel ils sont soumis à des majorations de prix et d'autres redevances, fait valoir la demande déposée auprès de l'OMC. Ainsi, par la voie du Canada, la province devra défendre les raisons pour lesquelles elle a décidé d'offrir un traitement différent à ses producteurs viticoles, a estimé la spécialiste des litiges commerciaux internationaux. Si les consommateurs voient généralement d'un bon œil certains avantages octroyés aux producteurs locaux, il n'en reste pas moins que, parfois, ceux-ci contreviennent aux accords internationaux, a rappelé la professeure de droit. Il ne s'agit pas du premier litige impliquant le Canada à propos du vin, puisque l'automne dernier, les États-Unis étaient revenus à la charge contre Ottawa devant l'OMC, alléguant que les mesures adoptées en 2015 par la Colombie-Britannique, qui autorisent ses vignerons à vendre leurs produits dans les épiceries, contreviennent aux règles du commerce international.
Il reste 2 minutes 30 avant la petite pause, étais-je en train de dire, ce qui me laisse le temps de vous parler du nouveau président mexicain coincé dans un avion. C'est une insolite qui s'est produite. Le nouveau président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui prendra ses fonctions le 1er décembre, est resté coincé plusieurs heures dans un avion de ligne cloué au sol mercredi, dans la ville de Huatulco, sur la côte pacifique. Le retard du vol était causé par la fermeture de l'aéroport de Mexico à cause du mauvais temps. Le président élu en juillet dernier a promis de gouverner sobrement. Il s'est notamment engagé à vendre l'avion présidentiel et à voyager sur les lignes régulières. Vétéran de gauche, il veut changer son pays rongé par la corruption et agir contre la pauvreté pour faire reculer la violence. « Je suis têtu, c'est connu », avait-il admis au début de sa campagne. Avec cette même conviction, j'agirai en tant que président de la République de manière entêtée, idiote, persévérante, avec un aveuglement presque fou. Je vais en finir avec la corruption, avait-il lancé quand son parti Morena l'avait désigné candidat. Habitué aux phrases polémiques, AMLO, son surnom, 64 ans, a réussi son pari à sa troisième tentative, devenir enfin président de la deuxième économie d'Amérique latine. Cultivant son image de simplicité et d'honnêteté, AMLO a su se démarquer de la classe politique traditionnelle qui a dirigé le pays depuis près d'un siècle et qu'il qualifie de « mafia du pouvoir ». Originaire de l'état de Tabasco, dans le sud-est, ce fan de baseball a démarré sa carrière au sein du PRI, le parti de droite, avant de l'abandonner pour passer à gauche. Malgré cette longue carrière politique, il aime se présenter comme un candidat anti-système. Il promet aussi de diminuer de moitié le salaire des hauts fonctionnaires ainsi que le sien, et il continue à vivre dans son appartement de la capitale. Prenons une courte pause, quelques annonces, mais ne bougez pas, nous sommes de retour dans à peine, allez quoi, 1 minute 30, 2 minutes, allez 2 minutes, le temps d'attraper un verre d'eau ou un café, et nous sommes de retour.
Avec de thé,
pas de thé, pas de thé, c'est hallucinogène. A tout de suite dans les voies de service. Nous revoici dans les voies de service pour cette deuxième partie de l'émission. De quoi allez-vous nous parler un peu, un petit teaser, Jean-Charles ?
Bien, nous allons parler des séjours de plein air qui ont la cote. Et puis, peut-être, à propos d'immobilier, vendre ou louer son condo, un gros dilemme.
Très bien. De mon côté, eh bien, nous parlerons, je n'ai pas eu le temps dans la première partie, du musée de Pablo Escobar, c'est promis. Nous parlerons également d'un métier lié au cannabis, payé $50 de l'heure. Écoutez bien, tout à l'heure, je vais vous donner...
Intéressant.
Ouais, c'est quand même bien payé pour... Et puis pour faire ce que c'est. Bon, vous allez voir, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Je ne vous vends
J'ai
pas
hâte.
Plus. Et puis, pourquoi pas, une belle histoire aussi, les fils d'un militaire qui ont enfin été réunis des années après, grâce à l'ADN. Voilà, c'est dans quelques instants, dans les voies de service.
C'est Audrey Ruel-Manceau qui nous signe cet article. Les séjours de plein air ont la cote. Les deux tiers des Québécois ont pratiqué au moins une activité de plein air au cours des trois dernières années. De ce nombre, 20% sont considérés comme des « mordus », entre guillemets, ce qui correspond à près de 1 million de Québécois. Qui sont-ils ? Quelles activités préfèrent-ils ? Où vont-ils ? Survol de leurs habitudes grâce aux résultats d'une étude de la chaire de tourisme Transat, réalisée en partenariat avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, le MEES, et une coalition de 19 organisations qui contribuent à la promotion de plein air. Donc c'est une étude très sérieuse. Qui sont les mordus ? Les mordus sont ceux qui, au cours de la dernière année, ont réalisé au moins 6 séjours d'une nuitée minimum à l'extérieur de leur domicile. durant lequel ils ont pratiqué une activité de plein air. Environ 20% des adeptes de plein air appartiennent à cette catégorie, soit quelque 13% des Québécois, a observé Claude Péloquin, directeur des études à la chaire de recherche, qui a sondé 3000 Québécois de 2016 à 2017. Nous avons d'abord dressé le portrait des amateurs de plein air dans son ensemble en 2017. Cette fois, nous avons fait ressortir certains éléments de la vaste base de données et avons ciblé un segment de voyageurs très précis, a expliqué M. Péloquin. La moitié des mordus consacrent de 6 à 10 voyages par année à la pratique de leur activité de plein air. L'autre moitié en fait plus d'une dizaine et de ce nombre, 26% en font plus d'une vingtaine. On pourrait croire qu'ils veulent fuir le bitume le plus souvent possible, mais les Montréalais ne figurent pas au palmarès des plus grands amateurs de plein air. Seul un mordu sur 5 est Montréalais, alors qu'il représente 25% de la population. Par contre, les chiffres démontrent que les habitants de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Saguenay, Lac-Saint-Jean et de la région de la Capitale-Nationale sont fortement surreprésentés. Ce qu'on remarque, c'est que plus tu habites en région éloignée, plus c'est un réflexe naturel de pratiquer le plein air, parce que tu as un terrain de jeu, mais aussi parce que ça fait partie de ton ADN, soulève M. Péloquin. 41% des passionnés du plein air sont âgés de 45 à 64 ans, et 57% sont des hommes. Les activités qui arrivent en tête de liste sont le vélo, la randonnée pédestre et la raquette. Durant leur séjour de plein air, les adeptes optent pour plusieurs types d'hébergements, hôtels, campings, etc. Mais ils posent souvent leur sac le soir venu chez des membres de la famille ou des amis. Cette option répond peut-être à un de leurs soucis concernant les freins à la pratique, soit le coût des activités de plein air, peut-on lire dans l'analyse globale des habitudes des adeptes du plein air. M. Péloquin a toutefois remarqué que 40% des mordus du plein air avaient utilisé un hébergement commercial pour au moins 9 nuitées au total dans l'année. 47% des passionnés ont effectué la majorité de leur séjour à l'extérieur de leur région, comparativement à 25% chez les adeptes en général. Sont-ils plus fortunés? Presque la moitié des adeptes de plein air en général ont un revenu familial annuel de 25 000 à 75 000 $. La tendance est encore plus forte du côté des mordus, alors que plus des trois quarts des répondants à l'étude ont déclaré un revenu annuel de ménage de moins de 100 000 $. Des chiffres qui ont surpris l'analyste. Je m'attendais honnêtement, pour les mordus qui font beaucoup de séjours à l'extérieur, que le revenu annuel moyen serait supérieur. Ce que ça nous dit, c'est que les gens qui aiment le plein air, qu'ils soient riches ou pauvres, ils s'arrangent pour en faire. Ça dit aussi aux entreprises touristiques de ne pas cibler principalement les gens avec de hauts revenus et que le plein air, c'est avant tout une façon de vivre, fait remarquer M. Péloquin.
Partons en Colombie à présent pour le musée de Pablo Escobar qui cause quelques problèmes. Un musée dédié à l'ancien baron colombien de la drogue, Pablo Escobar, appartenant à son frère et visité par des touristes étrangers, a été fermé par la ville de Medellín, a annoncé jeudi la municipalité. Ce site, qui ne disposait pas des autorisations légales, exposait, entre autres excentricités, d'anciennes voitures et motos, du capot de la cocaïne et même une fausse cloison derrière laquelle il se dissimulait. Il était géré par Roberto Escobar, alias El Osito, l'ourson, frère de l'ex-chef du cartel de Medellín, deuxième ville de Colombie. Située dans le quartier chic de Las Palmas, la maison faisait partie des attractions des narcotours avec l'immeuble Monaco, ancienne propriété de Pablo Escobar, et le cimetière Monte Sacro où il est enterré. Le musée a été fermé mercredi lors d'une opération conjointe de la mairie de Medellín, du vice-ministère du Tourisme et du service des migrations. Selon le secrétariat à la sécurité de la ville, au moins 7 étrangers se trouvaient sur les lieux au moment de l'inspection. Ce service a précisé que les touristes payaient 90 000 pesos, soit environ 30 dollars, l'entrée, et 106 000, soit près de 35 dollars, le tour complet. La mairie a indiqué que le musée ne disposait pas des autorisations nécessaires aux services touristiques et commerciaux et qu'elle a donc procédé à la suspension temporaire de l'activité de l'établissement. Je ne voudrais pas que les gens viennent dans notre ville, dans notre pays, pour faire l'apologie du crime, et encore moins que s'enrichissent ceux qui ont fait le plus de mal au pays, a déclaré à la presse le maire de Medellín. De son côté, l'ourson a affirmé qu'il ne faisait pas payer l'entrée et qu'il n'y avait que deux touristes présents lors de l'inspection. Les gens venaient à ma maison, se prenaient en photo avec moi et déposaient un don dans une tirelire dont la clé n'est détenue que par un prêtre qui venait chercher l'argent pour acheter de la nourriture à des petits vieux que nous avons récupérés dans la rue, a-t-il assuré. Il a indiqué qu'il rouvrirait le musée dès que les documents seraient en règle. Chef d'un puissant empire du crime et du narcoterrorisme, Pablo Escobar, pour rappel, a été l'un des hommes les plus riches du monde, selon le magazine Forbes. Il a été abattu par la police en 1993 et continue donc à causer quelques problèmes à la Colombie.
You're not quite what I expected. I beg your pardon if I seem dejected. From a colony once neglected. Outside child coming, ho, 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 ho. America had the muscle, but you had the mind. They had the bustle, but you had the design. Which one works together like rope from twine? I thought as I walked up this serpentine in you.
London town.
It was the middle of March and I was walking around.
London town.
Didn't know a soul, so I walked all around.
London town.
Feeling like a ship which had run aground in you.
London town.
We once wanted to be like you. Pull a hat, gabardine suit. Now we hip an empire closer to home. Mimic men to the end, you're buried in our bones. We were the magic, you were the metropole. We the fragment, you were the whole. We were the flesh, you were the mind and soul. At least that's how we heard the story told by you.
London town.
It was the middle of March and I was walking around.
London town.
Didn't know a soul, so I walked all around.
London town.
Feeling like a ship which had run aground. The night has not quite fallen yet. All the stars caught in your galaxy, they flicker like lamps here in your city. In you, London town. Walking the streets, history crashing all around. London town. Oh, bells ringing, I can hear the sound through you. London town. Expected. I beg your pardon if I seem dejected. From my colony once neglected. Outside child coming, oh, 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 home. Long time London since your flag came down. Long time since we moved along. But now I see just how entwined we were left by the years that we left behind with you.
London town.
It was the middle of March and I was walking around.
London town.
Didn't know a soul, so I walked all around.
London town.
Feeling like a ship which had run aground.
La formation Kobo Town avec London Town.
Et nous allons parler maintenant de vie de proprio, que c'est dur la vie de proprio. Vendre ou louer son condo, André Dumont qui nous signe cet article. Que l'on possède un condo, un petit plex ou de nombreux logements, la vie de propriétaire immobilier est pleine d'occasions et de préoccupations. La famille s'agrandit, le condo est devenu trop petit. Est-il plus avantageux de le vendre pour faciliter l'achat d'une prochaine propriété ou de le louer pour le conserver comme investissement immobilier ? Penny Rampado possédait son condo sur le plateau Mont-Royal depuis 9 ans. Nouveau conjoint, nouveau bébé, et voilà qu'une seule chambre ne suffisait plus. J'ai songé le vendre, mais tous ceux à qui j'en parlais me disaient « Es-tu folle ? Coin Saint-Denis du Lutte, ça va tellement prendre de la valeur. » Après quelques calculs et une rencontre avec son conseiller à la banque, Penny Rampando, décide de refinancer son condo pour se dégager une mise de fonds et ainsi acheter un logement plus grand. Elle décide de louer son premier condo. Lorsqu'elle soustrait les dépenses des revenus, il lui reste un déficit mensuel de 80$, somme qu'elle estime négligeable. Elle s'enrichit par le remboursement de l'hypothèque avec l'argent du loyer. « C'est une diversification de mon épargne, dit-elle. Je mets aussi de l'argent dans des rires et dans un fonds pour l'éducation pour ma fille quand elle aura 20 ans. Si elle veut rester à Montréal, elle pourra habiter le condo. » Pour récupérer sa mise, eh bien, c'est pas toujours évident. Pour bien des jeunes propriétaires, la question de louer son condo ou de le vendre ne se tranche pas aussi facilement. C'est le cas notamment lorsqu'on a acheté il y a moins de 5 ans ou que le marché des condos n'est pas favorable. Il ne reste presque rien de la mise de fonds initiale. En revanche, la location peut aussi s'avérer une avenue peu intéressante, surtout si l'on doit absorber un déficit de $200 ou plus par mois. Chaque propriétaire est dans une situation différente. Il y en a qui ne sont tout simplement pas à l'aise de supporter le risque financier et les tracas qui viennent avec la location. Et puis, il faut faire des calculs. Quand un client veut vendre son condo pour acheter une autre propriété en couple, Tania Adou est courtière immobilière à Montréal, aborde toujours la possibilité de le louer plutôt que de le vendre. Elle fait des calculs et surtout, elle aborde avec réalisme le contexte familial ou amoureux. Le couple achète ensemble, il a des projets de famille, mais une fois sur deux, ça ne marche pas. Si le premier condo n'a pas été vendu, on peut y retourner. Retourner habiter dans son condo pourrait cependant s'avérer impossible s'il est détenu en copropriété indivise et que le locataire refuse de partir. En indivise, il faut vendre, prévient Tania Adou, le locataire a droit au maintien des lieux à vie. La location d'un condo est un excellent moyen de diversifier ses investissements, croit Tania Adou. Cependant, il faut avoir les reins suffisamment solides, car dans la plupart des cas, les revenus de location ne couvriront pas l'ensemble des dépenses. Elle donne un exemple simplifié pour illustrer que, même quand les revenus de location ne couvrent pas toutes les dépenses, le rendement peut être très intéressant.
Et pour ceux qui se chercheraient un revenu pour régler ces questions immobilières, par exemple, j'ai peut-être la solution. Compagnie torontoise cherche le testeur de cannabis, salaire $50 de l'heure. Avouez que c'est pas mal.
Alléchant.
Recherche amateur de cannabis pour tester de nouvelles souches, bon salaire. Cette petite annonce d'une société de marketing de Toronto au Canada... Mais oui, au Canada, a provoqué plusieurs centaines de candidatures en quelques jours et un début de panique chez ses recruteurs. À un mois de la légalisation du cannabis récréatif au Canada, l'offre d'emploi à temps partiel de la société Allot n'est pas passée inaperçue. Elle propose à 6 amateurs d'être payés $50 de l'heure, avec un maximum de 12 heures par mois tout de même, pour tester les nouvelles variétés de marijuana. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En quelques jours, Allot a reçu plus de 500 candidatures, ce qui a provoqué une légère panique au sein de la société, a-t-elle commenté sur Twitter. Quelques conditions sont requises pour postuler. Vivre au Canada, être majeur, et si possible, avoir, je cite, « un intérêt affirmé pour le cannabis ainsi que la capacité de distinguer les nuances, parfois subtiles, entre les différentes variétés de cette drogue douce ». Les 6 futurs recrues formeront un comité de sélection qui devra évaluer ce que les producteurs canadiens ont de mieux à offrir. La société travaille pour un producteur agréé, Solas Health, dont elle est chargée de promouvoir et distribuer la production. Les futurs testeurs devront également être actifs sur les réseaux sociaux et participer à des vidéos promotionnelles pour la société. Le directeur général de la société, Greg Pantelic, a expliqué dans un communiqué qu'avec la légalisation prochaine du cannabis, c'est le 17 octobre pour rappel, les Canadiens allaient être submergés par un tsunami de variétés. Non seulement il sera difficile de faire la différence entre les centaines de nouvelles marques sur le marché, mais il sera aussi extrêmement compliqué pour les consommateurs de déterminer quelles souches leur correspondent, a-t-il ajouté. Voilà pourquoi il faut le tester.
Il n'y a plus rien qui me retienne. Y Ici, entre ces murs, je partirai, c'est sûr. Nos corps à corps n'en valent plus la peine. Et pourtant, je reste, rien ne presse, car tu m'embrasses et tu testes ma candeur. Tous les vendredis, à la même heure, il n'y a que toi et moi et la Java. Tu me racontes ces folles histoires d'outre-mer quand tu brillais lors des grands soirs et tu c'est sûr.
La fleur est Marcy, ta Java.
Entre bière et vin, Karine Duplessis-Pichet, qui est spécialiste en vin d'ailleurs, qui signe cette information. Du Cabernet Sauvignon dans une bière. Il n'y a pas erreur sur l'étiquette. Deux bières élaborées avec du vin sont maintenant vendues à la SAQ. L'une provient de France, l'autre du Chili. Elles ne sont pas uniques. Partout dans le monde, brasseurs et vignerons s'amusent à marier leur savoir-faire. Le château Le Grand Verdus se fond dans le paysage de la banlieue bordelaise avec ses bâtiments du XVIe siècle et ses vignes qui encerclent le domaine. Pourtant, le vigneron Thomas Le Gris de La Salle y élabore un produit hors de l'ordinaire, une bière co-fermentée avec du vin. Inspiré par les bières belges brassées avec des fruits comme la cerise ou la framboise, le jeune vigneron a voulu innover en brassant avec le fruit local, le raisin. La brasserie américaine Dogfish Head fusionne les deux mondes depuis les années 90. Sur son site internet, l'entreprise explique s'être inspirée des mélanges concoctés en Turquie, en Chine et en Amérique centrale il y a des milliers d'années. L'idée est reprise partout dans le monde, en Suisse, en Australie et même au Québec. Chacun s'amuse à tester la combinaison entre les différents cépages, céréales et houblons. Mais ces bières ont un point en commun, elles sont toutes rafraîchissantes. Les vignerons sont encore peu nombreux à s'aventurer dans la création d'une bière co-fermentée avec du vin. Thomas Le Gris de La Salle croit toutefois que ce produit a un grand atout. Un grand atout. Il intéresse la clientèle classique de l'entreprise familiale, soit les amateurs de vin. Si le cépage pique la curiosité, une association avec un vignoble reconnu peut aussi susciter l'intérêt. La brasserie Burdock à Toronto élabore une bière avec du pinot noir provenant du réputé domaine Pearl Morissette à Niagara. Avec des vins aussi recherchés, le succès est instantané.
Et une belle histoire pour moi, mon dernier article, les fils d'un militaire américain réunis grâce à l'ADN. L'ADN leur a révélé qu'ils avaient le même père. À 72 et 64 ans, deux demi-frères, l'un français, l'autre américain, se sont retrouvés lundi à Omaha Beach, dans l'ouest de la France, où leur père, un soldat américain, avait débarqué en juin 44. Il y a peu, ces deux hommes ignoraient leur existence mutuelle, puis des tests ADN leur ont révélé qu'ils avaient le même père, Bill Henderson, un GI mobilisé en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. André Gantois, 72 ans, de Ludres, dans l'est de la France, et Allen Henderson, 64 ans, de Greenville, en Caroline du Sud, se sont retrouvés lundi à Colville-sur-Mer, où leur père, mort en 97 et enterré à Los Angeles, a débarqué parmi les 132 700 alliés mobilisés le jour J. Venus avec des membres de leur famille, ils ont assisté à la descente du drapeau américain, au son de l'hymne militaire, au milieu des quelques 9000 croix blanches, surplombant les plages du débarquement. André Gantois avait appris à l'âge de 15 ans, à la mort de sa mère Irène, son histoire d'amour avec un soldat américain rencontré dans l'armée américaine, où elle s'était enrôlée pour gagner sa vie. André Gantois a 20 ans lorsqu'il s'adresse à l'ambassade des États-Unis à Paris pour tenter de retrouver son père, dont il ignore le nom. « On m'a répondu que ce que je demandais, c'était comme chercher une épingle dans une meule de foin », a-t-il raconté. Récemment, il se tourne vers un institut américain spécialisé en recherche d'ADN, une recherche inespérée. En juillet, il effectue le prélèvement requis et l'envoie aux États-Unis. Or, trois semaines plus tôt, cette entreprise a été chargée, par la famille Henderson, de mener une recherche généalogique basée sur l'ADN, justement. Les résultats tombent début août, les tests se sont croisés et l'agence a déterminé que j'avais un frère aux États-Unis et que j'étais de famille américaine, raconte André Gantois, encore retourné par son histoire, comme l'est également son demi-frère. « Cela a changé notre vie pour toujours », dit Allen, la main posée sur l'épaule d'André. C'était la première visite en France de l'Américain qui avait apporté une médaille de son père. Plus de 70 ans après, la question des enfants nés de Françaises et de soldats alliés reste méconnue, souligne Emmanuel Thiebaud, historien au mémorial de Caen. Si on sait notamment que quelques 200 000 Français sont nés de soldats allemands, il n'existe, faute d'études sérieuses à ce jour, aucun chiffre officiel sur les enfants nés de soldats alliés. Il y a donc encore peut-être plein de demi-frères en liberté.
Caribou, bois québécois. Boudé et regardé de haut il n'y a pas si longtemps, les vins québécois ont aujourd'hui le vent dans les voiles. Alors que les vendanges s'amorcent dans les vignobles de la province de plus en plus nombreux, Caribou lance un tout premier magazine consacré exclusivement aux vins québécois, créé en collaboration avec la sommelière Véronique Rivet. Portrait de vignerons, guide des cépages d'ici, état des lieux, regard sur l'avenir et suggestions de vins québécois, il y a tout dans ce hors-série pour déboulonner quelques mythes et vous donner le goût d'ouvrir une bonne bouteille de vin de chez nous. En kiosque dès maintenant au prix de 16,95€ le magazine. Et puis, en Alsace, une patrouille équestre pour contrer les vols de grappes. Et oui, sur les hauteurs de Souls au Rhin, dans le vignoble alsacien, une brigade verte patrouille à cheval pour lutter contre les vols de grappes et les incivilités en période de vendange.
Et peut-être pourrez-vous consommer du vin dans une discothèque sous l'eau. J'ai également petite brève. Des centaines de fans de musique se sont rassemblés la semaine dernière dans la piscine la plus profonde du monde. Ça se passe en Italie. Elle atteint 42 mètres de profondeur, contient 4,6 millions de litres d'eau. Une expérience sensorielle différente de ce qu'on croise d'habitude.
Effectivement.
Et c'est donc, eh bien, je crois, la fin de cette émission, le thème qui résonne. Il nous reste à remercier Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Merci à vous aussi, Jean-Charles Algon.
Merci Louis.
Avec plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Sans doute Yves-Olivier sera-t-il de retour. Nous serons à nouveau trois dans le studio.
Probablement.
D'ici là, eh bien, passez une bonne semaine. Écoutez, bonne journée, bonne semaine et à mardi prochain.
À mardi.